France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, quatrième entretien, vie et travail à l'époque surréaliste, 1917-1930.
Vous citez la taxe de 1919, mais vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir quelle est votre position à cette époque-là vis-à-vis de la société dans laquelle vous êtes, quelle est votre position aussi par rapport aux événements historiques d'une importance capitale qui viennent de se dérouler.
Oui, alors il faut que nous revenions un petit peu avant 1919 et où vous aviez commencé à poser votre question la dernière fois, situé à peu près en 1917. À ce moment-là, c'est en 1916 exactement que je suis venu à Paris pour entrer en hypocagne à Louis le Grand, venant de Caen, n'est-ce pas? Et c'est au cours de cette année d'hypocagne qu'il y a eu la révolution russe au début de 1917. Et ensuite, en octobre, alors que je n'étais plus en hypocagne, mais encore à Paris et à la Sorbonne, la révolution bolchevique. Et évidemment, tout ceci venait comme un événement qui m'a immédiatement semblé plus important. Je me souviens de mes discussions que j'ai eues à ce moment-là avec mes camarades de Cagne, n'est-ce pas, qui m'a semblé immédiatement plus important que la guerre de 1914 elle-même. Évidemment, tout ça est lié, il est absurde de le séparer trop, mais je faisais rire tout le monde, enfin, quand je disais qu'il me semblait que les suites de la révolution bolchevique, ou la révolution russe, déjà au début de 1917, serait historiquement probablement plus importante que celle de la guerre de 1914 elle-même. À ce moment-là, comment étais-je? Quand j'arrive vers 17 ou 18 ans, n'est-ce pas, et que je suis séparé de ma famille d'ailleurs, ma famille immédiate, et où je vis dans le monde des étudiants et des professeurs, et où là, je m'aperçois du côté sans vergogne et parfaitement cynique et parfaitement honteux des adultes par rapport aux enfants. Il y a une note de moi écrite comme ça à la bibliothèque Sainte-Geneviève en 1917 où j'invective très violemment la société adulte, hideuse de débauche, dis-je. Alors cela, c'est très nouveau, n'est-ce pas? C'est une espèce de sentiment de révolte vis-à-vis de la société. En même temps que cela, il y a une sorte de révolte contre la littérature qui exprime cette société. Que lisais-je, me demandiez-vous, à ce moment-là? Alors je vais répondre, je vous ai répondu pour les classiques. Latin ou autre, mais que lisais-je dans la littérature contemporaine? Eh bien, j'en avais été immédiatement avant à lire, par exemple, les symbolistes, qui étaient aussi dans la bibliothèque de mon père, aussi bien des gens totalement oubliés actuellement, comme Gustave Kahn, Stuart Merrill, mais aussi bien des choses comme Gide, par exemple, comme le Gide de Palude, comme le Gide de Voyage du Rien, et comme le Gide même des nourritures terrestres. Eh bien, cela répugnait à mon goût. Peut-être à mon goût profond, comme je l'ai indiqué quand j'ai parlé de mon atavisme. D'une part, cela me semblait vaseux, comme on dit maintenant, c'est-à-dire faible, lâche, déliquescent. D'autre part, ça me semblait d'un lyrisme mou, quelque chose qui allait parfaitement à l'encontre de mes déterminations. D'autre part, que pouvais-je lire différent de cela? Bien, je ne lisais pas beaucoup de romans, je lisais des textes universitaires, par force, n'est-ce pas, et qui me semblaient également fort peu solides. Et il faut dire qu'en dehors de ma formation des humanités latines ou grecques, j'avais également une formation, enfin une petite formation secondaire dans le scientifique, puisque j'avais fait latin-science. Et que quand je suis arrivé en philosophie, plus tard en hypocagne, Eh bien, où en était-on à ce moment-là? On en était à Bergson et à Renouvier, n'est-ce pas? C'est-à-dire, soit un rationalisme, un criticisme, qui me paraissait d'un ennui terrible, ou alors de quelque chose de gracieux et de peu fondé, comme la philosophie de Bergson. Alors, là aussi, que préférais-je? Eh bien, je me souviens parfaitement de ce que je préférais, mais alors d'une façon très violente. Eh bien, c'était d'une part Schopenhauer, pour rappeler mon goût du tragique et de la volonté, n'est-ce pas? Et d'autre part, les logiciens du XVIIIe siècle anglais, par exemple Locke ou des gens de ce genre-là. Et dans la philosophie plus moderne, je commençais à découvrir Russell, par exemple, n'est-ce pas, le logicien et le professeur de la Sorbonne, puisque j'étais en licence de philosophie à la Sorbonne en 17. Eh bien, celui de très loin que je trouvais supérieur, c'était d'une part Brunswick, parce qu'il nous parlait de Spinoza, qui n'est pas un philosophe lâche et lâché, et d'autre part Lalande, qui était notre professeur de logique.
Nous entrons maintenant dans un événement très important que nous pouvons appeler, si vous voulez bien, l'époque surréaliste. Par rapport au surréalisme et à la révolution surréaliste, votre position, me semble-t-il, est nette. Ce qu'on appelle surréalisme met en place une approche de la pensée en principe entièrement modifiée. Une pensée qui, maniant un certain coefficient d'irrationnel, doit passer par l'effondrement de la pensée humaniste et rationaliste. Mais l'accent est mis, toujours dans la théorie surréaliste, sur le rêve, l'imaginaire, le merveilleux, et je voudrais vous demander d'où vient chez vous, presque immédiatement, le retrait, en même temps que l'intérêt, mais enfin tout de même le retrait, en direction d'une part d'un fonctionnement logique, linguistique, et d'un autre côté politique, comme il se marquera plus tard de façon précise. N'avez-vous pas d'autre part l'impression que la lutte entre idéalisme et matérialisme se poursuit à l'intérieur de cette autre formule que l'on appelle surréalisme? N'avez-vous pas l'impression que les équivoques, comme celle introduite par la valorisation de la poésie et l'obstination à rester dans un cercle psychologique et moral, sont révélatrices de cet état de fait, de cette lutte? Je voudrais vous demander ce que vous pensez, par exemple, à ce moment, de l'écriture automatique, de votre place par rapport au texte qui s'écrit. Comment se formule pour vous ce qui me paraît essentiel et non reconnu dans votre travail en général, à savoir une sorte d'objection qui prend tour à tour et qui prendra tour à tour l'aspect du monde concret comme langue, si on peut dire, et de la langue comme monde concret, ainsi que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Bref, cette espèce de primat du signifiant que vous poserez et développerez plus tard en fonction d'une sorte de cosmogonie, et là c'est votre couple dialectique, parti pris des choses, compte tenu des mots, puisque c'est là une terminologie dont vous êtes l'inventeur, c'est-à-dire l'insistance sur les mots et les choses. Par conséquent, pouvez-vous nous dire à ce moment-là comment vous vous situez par rapport à la révolution surréaliste et à sa théorie?
Oui, je pense qu'en effet, ce n'est pas mal d'appeler l'époque dont nous avons parlé l'époque surréaliste, parce qu'en fait, historiquement, c'est comme ça qu'on peut dire, n'est-ce pas? Il est certain qu'après, mettons, Proust et Claudel, enfin, les événements les plus importants de cette époque peuvent se grouper sous le signe surréaliste. Alors, je suis légèrement plus jeune, à peine plus jeune que Breton, que Aragon, un peu plus nettement d'Éluard, qui a 4 ou 5 ans de plus que moi. Mais à ce moment-là, je ne les voyais absolument pas. Enfin, j'étais enfermé d'abord à la Sorbonne, ensuite au régiment, ça, il aurait fallu en parler. Enfin, j'ai été mobilisé pendant la guerre. Je savais très bien que je pouvais être tué. Que disais-je à ce moment-là? Qu'avais-je dans ma capote et dans mon sac de fantassin? Eh bien, j'avais L'origine de la tragédie de Nietzsche. Vous voyez, ça peut être un point assez intéressant. Il se trouve que pendant les deux guerres, et pas du tout parce que je voulais faire, passer à l'ennemi. Eh bien, dans la première, c'était l'origine de la tragédie de Nietzsche, c'était allemand. Et dans la seconde, ça a été le second Faust de Goethe. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été comme ça. C'était pas du tout pour prendre parti pour les Allemands, ça s'est trouvé seulement comme ça. Alors, à ce moment-là, j'ai donc connu la Nouvelle Rue Française et mes textes ont été immédiatement acceptés. Quels étaient ces textes? Eh bien, ces textes s'appelaient « Trois satires ». Et ça, c'est assez significatif. J'étais donc dans la révolte, si vous voulez, puisque un homme qui écrit des satires est évidemment quelqu'un qui n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Et ces textes, enfin, je concevais cela, il devait y en avoir davantage, que trois, comme une espèce de galerie, si vous voulez, de figures, comme des têtes de massacre. Enfin, il y a l'industriel, n'est-ce pas? Il y a aussi l'employé, il y a aussi l'ouvrier, il y a aussi l'artiste qui a été publié aussi. Et il pouvait y avoir encore l'évêque ou le général, n'est-ce pas? C'était donc des textes très axés vers une action satirique. La littérature était considérée comme une arme à ce moment-là. Il se trouve que ces textes étaient considérés comme pouvant passer dans cette revue, La Nouvelle Revue Française, ils y ont paru. D'autre part, Paulhan, quand je l'ai vu pour la première fois, m'a dit « Connaissez-vous mon ami André Breton ?» Non, je ne connaissais pas André Breton. Et ce nom est arrivé sur moi, tout simplement, comme une information. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder de ce côté-là, et il m'a semblé qu'évidemment, ces garçons n'étaient pas si différents de moi. Alors, à ce moment-là, qu'ai-je fait? Eh bien, comme vous le dites, je me suis retiré. Peut-être cela vient-il du fait que je ne suis pas très doué pour la politique littéraire, que je ne sais pas, et que je n'ai jamais su très bien, si vous voulez, faire mes affaires, et que, d'autre part aussi parce que le monde littéraire que j'entrevoyais quand j'allais à la Nouvelle Revue Française ne me plaisait pas tellement que ça. Il faut dire que à ce moment-là, mon père est mort, gros événement, enfin, pour ma sensibilité, qui a été très déterminant aussi, et que j'ai été engagé gentiment par Gaston Gallimard, parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, et j'ai été nommé dans l'administration des éditions Gallimard, qui à ce moment-là ne comptait d'ailleurs que très peu d'employés. Je m'occupais de la fabrication des livres. Et là, évidemment, j'avais affaire à un tas d'écrivains, de poètes, etc., qui me répugnaient plutôt. Enfin, il faut bien que je le dise. Moi, quand j'étais libre, j'allais au café, enfin, et puis j'allais au cinéma, et puis je voyais des filles, et puis il ne s'agissait pas pour moi du tout de frayer avec le monde littéraire. Donc je me suis retiré de cette façon-là. De notre côté, je me suis retiré à proprement parler, je me suis mis presque hors la loi au point de vue de la société bourgeoise, puisque je suis arrivé à vivre avec une ou des filles qui menaient une vie un peu semblable à celle que menaient les anarchistes, faisaient, si vous voulez, de la reprise individuelle, enfin, comme on dit dans le vocabulaire de l'anarchie, c'est-à-dire qu'il y avait en fait des amis bourgeois riches et que moi j'en profitais. Hein. Donc, il y avait une sorte de mise hors la loi de ce point de vue-là. Mais évidemment, dans ces cafés, qui étaient ces cafés des quartiers latins, j'apercevais des surréalistes aussi, des gens comme Desnos ou comme Vitrac, mais jamais je ne suis entré en relation avec eux. Enfin, là aussi, aucune attirance, il me semblait. Des demi-selles, comme on disait alors, des anarchistes, je ne peux pas dire de salon tout à fait, mais enfin des littérateurs, des poètes, des gens qui vraiment ne menaient pas la vie, enfin, de quelqu'un qui marche contre l'ordre établi et qui écrit contre l'ordre établi. Par ailleurs, alors, j'ai rapidement quitté les bureaux de la Nouvelle Revue Française pour des raisons diverses, mais le fait est là, n'est-ce pas, je les ai quittés parce que je ne pouvais pas m'astreindre à ce travail, parce qu'aussi j'avais envie à chaque instant d'envoyer mon encrier à la figure de M. Cocteau ou de M. je ne sais qui, enfin, au lieu de prendre ses instructions pour la fabrication de ses livres. Et je vivais tout à fait retiré, alors dans l'appartement que je partage avec ma mère qui était venue après la mort de mon père, habiter Paris. Et je me retirais dans un approfondissement de mon écriture. Il est très significatif que les seconds groupes de textes que j'ai envoyés à la Nouvelle Revue Française après l'acceptation des premiers, eh bien, c'était un groupe de textes qui étaient des textes brefs, qui auraient pu être imprimés en italique, comme des poèmes, si on veut, mais qui étaient axés sur les problèmes du langage à proprement parler. Enfin, il y en avait un qui s'appelait du logoscope, c'est-à-dire regarder le logos, regarder les mots, n'est-ce pas ? Et où je faisais une analyse d'un mot, comme le mot souvenir, où il y a des consonnes, SVNR, n'est-ce pas, qui me semblait être quelque chose comme son squelette, et puis des voyelles, O-U-E-I, qui me semblaient être comme sa chair, n'est-ce pas. Et là, on peut rappeler le mot de Mallarmé, à propos des mots anglais, dans l'enveloppe sonore du mot, il y a donc une essence réelle, se rapprochant de l'organisme dépositaire de la vie, le mot, dit Mallarmé, présent dans ses voyelles et ses diphtongues, comme une chair. Mon travail, si vous voulez, poétique, si on veut l'appeler ainsi, portait là-dessus. J'ai à ce moment-là écrit aussi d'autres textes qui sont réunis dans Poèmes ou ailleurs, comme Naissance de Vénus, qui est publié en tête du Grand Recueil, tout de suite après le poème liminaire qui est sur la mort de mon père, n'est-ce pas, qui est une espèce de dédicace générale de mon œuvre à mon père. Eh bien, ce texte que je décris, la naissance de Vénus sur une conque sortant de la mer, et là, je vois très bien où je l'ai écrit, c'est une plage près de Aguet, en Méditerranée. Eh bien, il s'agit là d'un exercice sur l'indicatif présent, hein, et d'autre part, sur les deux points. Au point de vue de la ponctuation, il n'y a que des deux points, et il s'agit de l'indicatif présent. Il y a aussi un autre texte qui est dans le poème qui s'appelle « L'imparfait ou les poissons volants », n'est-ce pas, qui est une étude sur le temps de l'imparfait, le temps grammatical de l'imparfait. Ceci me paraît assez significatif. Alors, ces textes ont eu beaucoup de difficultés à être admis. Rivière, qui n'était pas encore mort, mais il était déjà gravement malade, et il devait mourir de cette maladie, avait accepté du logoscope. Mais une difficulté s'était élevée entre nous au sujet de l'importance des caractères, parce que je désirais que chacun de mes textes, puisqu'ils étaient rares, fasse effet et donc soit publié dans des caractères vaniteux, n'est-ce pas ? Eh bien, il s'est élevé une difficulté. Paulhan, qui est venu à la suite de Rivière, n'a pas publié ces textes qui sont restés enfouis pendant des années, qui je n'ai retrouvé que plus tard. Le fait est que je me retirais donc à la fois de la Nouvelle Revue Française, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, d'une certaine façon, et d'autre part, je me retirais du surréalisme, c'est-à-dire que je n'y adhérais pas, et que si les questions qu'il posait m'intéressaient, j'étais tout à fait contre, d'une part, leur attitude spectaculaire, le fait qu'ils, et je pense qu'ils avaient raison de le faire, puisque c'était aussi leur tempérament, et que c'était probablement utile, c'est-à-dire de faire des manifestations publiques et de se poster en ennemi, enfin de tout, et de la façon, comment dirais-je, quotidienne et constante, d'être comme une espèce de comité de salut public, enfin si on veut. Naturellement, il y avait eu avant eux Robespierre, et il y avait eu avant eux l'autre amant, et Rimbaud, n'est-ce pas ? Et je me rendais compte dès alors de ce que j'ai dit plus tard, c'était qu'ils ne faisaient, dans une certaine mesure, que redire plus faiblement et en groupe ce que Rimbaud ou l'autre amant avaient fait seul en face de leur papier blanc. Et de façon beaucoup plus forte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'expression était plus faible. Quant à moi, quelle était mon attitude et, comme vous dites, ma place vis-à-vis du langage ou de l'écriture des mots, n'est-ce pas ? Ma place devant le texte, au moment où il s'écrivait. Eh bien, d'une part, ma place, je l'ai dit, était en retrait, c'est-à-dire que mon but... Dans les Trois Satyres, c'était quelque chose comme une action guerrière. Mais d'autre part, j'ai pensé très rapidement, et ça correspond davantage à mon tempérament, que les armes doivent être préparées soigneusement et dans le secret. C'est-à-dire que ce n'était plus, si vous voulez, un sabre ou une flèche, mais c'était une bombe que je voulais préparer. Et je voulais que chacun de mes textes soit quelque chose comme une bombe, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus clos, de beaucoup plus fermé, de beaucoup plus secret, mais de beaucoup plus efficace, une fois qu'on l'aurait mise en action. Voilà, du point de vue, si vous voulez, de la forme même de mes textes, c'était la forme de la bombe et la préparation, la longue préparation de la bombe qui m'intéressait. C'est aussi vous dire, n'est-ce pas, que Je ne participais donc pas aux actions extérieures, que je me renfermais et que je préparais mon engin.
Vous venez d'entendre le quatrième de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Sollers. Aujourd'hui, vie et travail à l'époque surréaliste, 1917-1930. Assistant Jacques Devin. Mercredi 26 avril à 22h40, cinquième entretien, vie et travail à l'époque surréaliste, 1930-1940.